présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Annie Dayan Rosenman, maître de conférence en littérature à l'Université Paris 7, pour le livre « Un ciel de sang et de cendres, Piotr Ravitch et la solitude du témoin », qui vient de paraître aux éditions Quimet et que vous avez co-dirigé avec Francisca Louvagie. Il s'agit d'un livre collectif, nourri de nombreuses contributions. On peut déjà citer Elie Wiesel, Hélène Cixous et Luba Jurgensen, mais également des documents et des textes inédits, notamment extraits de son journal. Vous déclarez dans la préface que ce livre a pour ambition de faire redécouvrir Piotr Ravitch, et plus particulièrement son roman Le sang du ciel, paru en 1961 chez Gallimard, qui témoigne de l'expérience concentrationnaire et de l'anéantissement des Juifs d'Europe de l'Est. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter Piotr Ravitch ?
Oui, écoutez, non seulement je peux, mais j'en suis ravie, puisque justement Piotr Ravitch, pour beaucoup de ceux qui ont participé au livre, est un des plus grands écrivains de façon générale de langue française et un des plus grands écrivains ayant témoigné sur la Shoah. Et alors il y a un destin un peu étrange, puisque il a écrit un seul livre, et c'est un livre unique sur tous les plans. C'est un livre unique parce que c'est le seul livre qu'il ait jamais écrit sur son expérience et sur la catastrophe. Il sort en 61. Il a écrit un autre petit livre, bloc-notes d'un contre-révolutionnaire ou la gueule de bois, en 68, qui était plutôt un livre d'humeur après 68. Mais dans Le sang du ciel, on a l'impression que c'est la somme de tous les livres qu'il aurait pu écrire sur le sujet. Et d'ailleurs, le livre, lorsqu'il sort, a un succès initial impressionnant. Si l'on va consulter les recensions, je crois qu'il n'y a pas un journal en France ayant une rubrique littéraire qui n'ait pas recensé le livre. Il reçoit le prix Rivarol. Très vite, il est littéralement propulsé dans le monde littéraire et peu à peu, ce livre va tomber dans le silence et dans l'oubli. Et un oubli si profond qu'on a presque l'impression de faire œuvre de résurrection, là, en parlant.
Alors, vous parlez dans la préface de l'expérience d'un choc et d'un éblouissement à la lecture du roman Le sang du ciel. Qu'est-ce qui fait de ce livre un livre à part?
Je crois que ce qui en fait un livre à part, je dirais, c'est d'une part sa forme et d'autre part l'entrechoc entre son sujet et la forme choisie. C'est-à-dire que le livre, donc je disais, on a l'impression que c'est un livre qui se bat contre lui-même. C'est-à-dire que Ravitch va avoir recours à toutes les ressources de la littérature tout en se battant contre un texte entre guillemets littéraire lorsqu'il s'agit d'un désastre, d'une destruction aussi absolue. Et contrairement à d'autres écrivains, Ravitch sait qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se battre contre l'écriture si on veut laisser une trace de ce désastre. Alors ça, c'est le premier paradoxe. Le second, donc quelqu'un qui utilise toutes les ressources de la littérature en haine, d'une certaine manière, de la littérature. Le second paradoxe, c'est que Ravitch est un témoin, et c'est un grand témoin. Il a assisté à la destruction du ghetto de Lvov. Il a été déporté à Auschwitz, il a été déporté au camp de Letmeritz, et il refuse le statut de témoin. Puisque vous l'avez dit, son texte est intitulé « Roman ». À la fin de son œuvre, on ne sait plus comment la qualifier du coup, il dira « Ceci n'est pas un témoignage ». Et en même temps, c'est sans doute un des plus forts témoignages à la fois sur la destruction, mais aussi sur ce que la destruction induit chez ceux qui y sont exposés.
Alors justement, c'est le fait même qu'il s'agisse d'un roman qui le met à part dans la littérature dite de témoignage, parce qu'il y a des textes extrêmement forts par ailleurs. Je pense par exemple, en tout cas en France, à Robert Antelme. Qu'est-ce qui fait, c'est cette forme romanesque qui le rend si particulier ?
Oui, alors vraiment, là, vous avez posé la vraie question. On se la pose tous. Alors, ce à quoi nous sommes arrivés, parce que si la forme était en elle-même, je dirais, si choquante à l'époque, comment expliquer cet immense succès? Il faut aussi dire que Le Sang du Ciel sort en 61, c'est-à-dire en même temps, dans la même foulée. Je rappelle que Anna Langfuss, Le Sel et le Soufre, c'est 1960. Les Bagages de Sable, c'est 1962. Le Dernier des Justes, c'est 1959. Chez Wiesel, La Nuit, c'est 1959. Le Jour, c'est 1960. Et L'Aube, c'est 1961. Donc vous voyez que c'est... Et Le Procès Eichmann, c'est 1961. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes dans cette première vague d'écriture, d'ailleurs, toute extrêmement puissante. Mais je crois que Ravitch, très vite, refuse à la fois toute écriture de témoignage réaliste, puisque c'est quand même, je dirais, l'un des horizons d'écriture d'un certain nombre de témoins, mais il refuse, pour des raisons que l'on pourrait expliquer, ce qui fait la force du témoignage. Vous citiez Robert Antelme, on pourrait citer Primo Levi, on pourrait citer Elie Wiesel. La force du témoin, c'est qu'il dit « j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux, et ce « je » est ce qui va en quelque sorte frayer un chemin pour... que l'on croit à ce que dit le témoin. Or, Ravitch va avoir une série de narrateurs emboîtés les uns dans les autres, et donc il va refuser la précision extrême qui est, je dirais, à la fois l'apanage et la nécessité du témoignage, puisque le témoin ne peut parler que de ce qu'il a vu, mais il n'a vu qu'une portion de réalité à l'endroit où il était. Alors peut-être pour mieux expliquer, Ravitch, par exemple, ne donne pas de date. 1940, point de suspension. Il ne donne pas de lieu. Nous savons, parce que nous avons travaillé, qu'il s'agit du ghetto de Lvov. Mais à première lecture, rien ne pouvait me certifier qu'il ne s'agissait pas du ghetto de Varsovie ou du ghetto de Lodz. Donc d'une certaine manière... On a l'impression que c'est un ghetto qui témoigne pour tous les ghettos, que ce sont des responsables de conseils juifs qui vont être présentés pour tout. Et peut-être que c'est cette forme-là qui fait qu'à la fois il témoigne pour tous les ghettos, pour tous les témoins, mais qu'à la fois il ne veut pas se qualifier de témoin.
Alors effectivement, il n'utilise pas les codes, on va dire, du témoignage, notamment l'utilisation de la première personne, mais à travers la figure de Boris, par exemple, c'est bien le récit de l'expérience de Piotr Ravitch.
Absolument.
Je pense notamment à la question de la dissimulation de sa judaïté.
Absolument. Il y a de très très forts éléments autobiographiques. Donc ce Boris, c'est lui-même un jeune homme séduisant et séducteur, confronté à l'histoire, qui, pour survivre, dira qu'il n'est pas juif et qui va quitter le ghetto avec d'ailleurs cette mission qui lui est confiée, où on lui dit « Vous qui allez survivre, souvenez-vous de tout, souvenez-vous bien ». Mais en même temps, il va en quelque sorte attaquer une forme de sacralité que l'on prête au témoignage. Je vais mieux m'expliquer. Ce personnage que vous citiez, Boris, est un jeune homme qui pense très fort à faire l'amour, parce qu'il est jeune, parce qu'il se sent en danger, et donc il va faire l'amour dans beaucoup de coins du ghetto, même les plus incongrus. C'est quelqu'un qui sait que, d'une certaine manière, son identité est inscrite dans son sexe circoncis. Et Ravitch va parler de la circoncision et de la présence physique et mortelle du sexe pendant les rafles, par exemple. Il va donc aborder des sujets, des thèmes dont on sait qu'ils existent, mais dont on pense qu'ils ne peuvent pas être en harmonie avec une sorte, je dirais, de dignité du témoin. Des gens m'ont dit, mais enfin, on ne parle pas de sexe lorsqu'il s'agit d'un tel désastre. Eh bien, lui, il en parle. De la même manière, si vous le comparez à Primo Levi, et Dieu sait que les livres de Primo Levi sont des grands textes, et aussi du point de vue littéraire, mais le rêve de Primo Levi, c'était, d'une certaine manière, laisser les choses se raconter d'elles-mêmes. Piotr Ravitch sait que les choses ne se raconteront pas d'elles-mêmes, et il se met en scène, donc, confronté au sexe, confronté à son sexe, confronté à l'écriture. Est-ce qu'il va couper ou non telle ou telle partie? Et il me semble que peu à peu se sont mis, à partir de 61, se sont mises en place des normes du témoignage et que désormais il ne correspondait plus à ces normes. Et cela pourrait expliquer qu'on le passe sous silence dans beaucoup de textes, en particulier américains ou aux États-Unis qui travaillent sur les témoins.
Mais justement, c'était ma question. Est-ce qu'il a bénéficié d'une reconnaissance plus importante dans d'autres pays qu'en France? Apparemment, non, ce n'est pas le cas, en tout cas pas aux États-Unis.
Aux États-Unis, je peux même citer une phrase d'un des grands, grands critiques littéraires sur la Shoah, qui est, je crois, Lawrence Langer, et qui dit que c'est un texte impudiquement brillant. Et cette espèce de trouble s'est reproduit pratiquement. Nous avons fait une étude de la réception de Ravitch. Enfin, nous avons présenté des textes en Pologne, en Allemagne, en Angleterre. Et pour donner un exemple, lorsque j'ai écrit mon premier texte sur Ravitch en 1995, donc ça a fait un petit moment, qui est apparu au temps moderne, je me suis rendu compte tout à coup que depuis la multitude de textes sortis au moment de la parution du livre, il n'y avait plus rien. D'où la nécessité, nous semblait-il...
Mais dans le monde universitaire également,
dans le monde universitaire, quelques textes... Non, c'est moins radical, mais ça se compte sur les doigts de la main, 3 ou 4.
Mais alors, qu'est-ce qui explique à Diane Rosenman qu'en 61, cet aspect, cette hypersexualité, soit un côté héros thanatos dans ce que vous décrivez en tout cas, qui sont pourtant assez logiques, mais en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que c'est passé, que ce livre a pu rencontrer un
alors
succès?
Alors, je me suis peut-être mal exprimée, je ne parlerai pas d'hypersexualité, je dirais simplement que le fait que la présence déjà, mais personne ne dit très explicitement que c'est cela. Cela qui fait qu'il n'existe plus. Je crois qu'à un moment donné, mais vous l'avez dit, il y a le magnifique modèle que représente le témoignage d'Anthelme et de Primo Levi, très proche dans leur... et aussi le fait de l'ambiguïté du statut du témoin. Quand quelqu'un vous dit « ceci n'est pas un témoignage » ou qu'il appelle son témoignage « roman » et que nous sommes dans une période où de très très fortes interdits sont posés sur la littérature. Souvenez-vous, la fameuse phrase d'Adorno sur la poésie qui serait barbare, les positions très fermes des Divisels sur littérature et témoignage. Je crois que nous sommes arrivés à un temps où, avec l'extinction progressive des témoins, mais aussi toute cette réflexion sur l'écriture qui court maintenant depuis les années 60, on est arrivé, je crois, à pouvoir entendre que la littérature, mais je veux dire la vraie, celle qui parle de la douleur des hommes, est apte à porter la mémoire. Et c'est pourquoi il nous a semblé que le temps était venu pour une écoute ou une relecture de Ravitch.
Alors, votre livre, je disais au tout début de l'émission, est nourri de nombreuses contributions qui dressent un portrait assez fort de Piotr Ravitch. Si on reprend à partir de 1961, donc lors de la sortie du livre, on voit qu'il a eu par la suite une véritable place sur la scène littéraire française, notamment un rôle de passeur avec les littératures de l'Est, mais il était aussi poète. Comment il se situait exactement? Qui il était à ce moment-là?
Alors, je crois que vous avez absolument dit le mot. avec une générosité extraordinaire, Piotr Ravitch s'est fait le passeur d'un certain nombre d'écrivains. C'est lui qui fait la préface au livre de Rudnitsky, c'est lui qui fait la préface de Danilo Kish, de Sevela. Alors il y a deux types de textes que nous avons réunis, retrouvés. Il y a les textes des préfaces où il fait connaître, reconnaître ces belles littératures d'Europe de l'Est. Et donc il avait la section, la rubrique Europe de l'Est au Monde des Livres. Et donc c'est ainsi qu'il les faisait découvrir, puis qu'il faisait des préfaces. Et il y a un autre, mais je dirais que c'est un versant culturel, Europe de l'Est, avec aussi, par exemple, un enthousiasme extraordinaire au moment où sort le livre de Solzhenitsyn, parce qu'il trouvait les intellectuels français de gauche extraordinairement sourds et aveugles à ce qui pour lui avait été les méfaits ignorés et puis qu'on refusait de connaître du communisme. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi très touchant. Ravitch a beaucoup participé au colloque des intellectuels juifs de langue française. Et les interventions de Ravitch sont toujours, on en retrouve deux ou trois, sont très belles parce qu'elles font preuve, elles témoignent de son extraordinaire connaissance de la culture juive traditionnelle, de la culture juive, des petites villes juives, de cette culture qui a été détruite. Et l'on peut dire que d'une certaine manière, on s'aperçoit à ce moment-là que Ravitch, en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur, en tant qu'homme de culture, est au carrefour d'un très grand nombre, je dirais, de pistes. La piste de la modernité, du modernisme, même parfois on a parlé de lui comme quelqu'un qui aurait été proche du nouveau roman, on a pu le comparer à Beckett même, mais par ailleurs il recueille toute cette tradition assassinée, et dans les années 60, au moment où il y a les colloques, on ne sait pas encore qu'il y aura cette redécouverte de cette culture. Voilà, je crois au passeur, c'est le terme que je conserverai, oui.
Comment vous décririez son rapport au judaïsme ?
Je crois que c'est un amour immense, immense et déchiré. Nous avons pu avoir son journal, en tout cas quelques gros paquets de feuilles pour quelques entrées du journal, que nous a confié son ami Éric Vaux. Ravitch avait demandé que ce soit détruit à sa mort. Heureusement, ça n'a pas été détruit. Un certain nombre de feuilles ont été photocopiées. Et alors, est-ce que j'ai encore le temps de dire quelques mots ?
Bien sûr, avec plaisir, parce que cette partie-là est justement très intéressante. Il disait notamment qu'il écrit en plusieurs langues sur une même page.
Alors lui-même disait que c'était un volapuc, et il y a des mots en hébreu, donc pour moi relativement faciles à lire, puisque ce ne sont pas des... Mais il y a des mots en sanskrit, il y a des mots en polonais, il y a des mots en ukrainien, et ce qui me frappe le plus n'est pas tant ce recours, ce passage d'une langue à l'autre, un mot lui manque, il le met. Parfois aussi, j'ai l'impression qu'il voulait, quand c'était en sanskrit, je pense que c'était plutôt pour crypter son texte. Mmh. Mais il y a un dialogue avec Dieu. Et il lui parle. Il lui parle, ce sont des phrases d'une simplicité, c'est assez bouleversant. Il lui parle comme on parlerait à quelqu'un de familier. Et sans d'ailleurs que la croyance en Dieu ou que la présence de Dieu vienne mitiger en rien son désespoir. Mais c'est une présence et qui est là dans le journal.
Alors pour tous ceux qui auraient envie de découvrir un peu plus Piotr Ravitch, il y a une rencontre qui va être organisée au Mémorial de la Shoah le dimanche 2 juin à 14h30 en votre présence, Annie Diane Rosenman, mais aussi en présence de Francisca Louvagy, Hélène Sixoum, Catherine Cocchio, Bertrand Leclerc, Anthony Rudolph et Régine Weintraeter. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche 2 juin ?
Alors, déjà peut-être vous dire à quel point je suis heureuse que cette première présentation de Ravitch ait lieu au mémorial de la Shoah, que je voudrais vraiment remercier de cet accueil, parce qu'il me semble qu'une immense injustice est ainsi réparée, que la présentation du livre de Ravitch, de ce livre sur Ravitch, auquel ont participé encore beaucoup d'autres écrivains et critiques, pour Francisca Louadji et moi-même, je dirais que c'est presque l'essentiel. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'une part de présenter, je dirais, ces lectures critiques de ce en quoi, c'est la question que vous me posiez, en quoi est-ce que c'est un livre unique, en quoi est-ce que c'est un livre à part, mais nous avons aussi retrouvé des émissions de télévision auxquelles il a participé aux côtés de Solzhenitsyn. Il me semblait important qu'on le voie, qu'on l'entende. Un des metteur en scène, Jean-Paul Tahins, a découvert Ravitch dans un éblouissement et il a, sur le champ, tenu à présenter un projet et il a fait une séance de 10 séances à France Culture de lecture de Ravitch, dont on entendra quelques... Il y a un éditeur qui s'est constitué éditeur pour publier Ravitch. Il s'agit de Marc Seda. Et il y aura un moment, je crois, de grâce qui sera le dialogue entre... Donc si je vais dans l'ordre, il y aura une présentation par Francisca Louadji et moi-même qui avons un peu fédéré tous ces textes, toutes ces bonnes volontés, toutes ces découvertes aussi de textes. Puis un dialogue qui sera, je crois, un moment de grâce entre Hélène Cixous et Bertrand Leclerc. Hélène Cixous l'a bien connue, c'est elle qui a écrit la préface à la publication de Ravitch en polonais et elle nous a donné donc son texte. Il y aura une table ronde de trois spécialistes, Anthony Rudolph, qui l'a fait découvrir en Angleterre, en fait qui l'a fait découvrir, qui est un des grands, grands passionnés de Ravitch, Catherine Cocchio, Régine Weintrater, qui est à la fois spécialiste de littérature, analyste et dont Ravitch était son témoin de mariage. Donc voilà, il y a aussi de la proximité. Et Elie Wiesel, qui nous avait donné un texte pour le livre, ne pouvait pas être là, mais il nous a envoyé un DVD où il parle de son ami Ravitch, car ils étaient très proches.
Je vous remercie beaucoup, Annie Diane Rosenman. Je rappelle donc que le livre « Un ciel de sang et de cendres, Piotr Ravitch et la solitude du témoin » vient de paraître aux éditions Quimet et qu'une rencontre intitulée « Piotr Ravitch 1919-1982, un témoin scandaleux » aura lieu le dimanche 2 juin à 14h30 au Mémorial de la Shoah à Paris. Si on veut lire le roman, il est disponible ?
Alors le roman est disponible, il reste quelques exemplaires donc, dans la collection Blanche Gallimard, et il reste encore une centaine d'exemplaires parce qu'ils sont tous partis, publiés par Marc Seda. On les trouve en tout cas très facilement à la librairie du Mémorial de la Shoah.
Parfait, je vous remercie. C'était donc Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.